Jules Verne, Le Sphinx des glaces. À la mémoire d'Edgar Poe, à mes amis d'Amérique. Première partie, chapitre 1. Les îles Kerguelen. Personne n'ajoutera foi sans doute à ce récit intitulé Le Sphinx des glaces. N'importe. Il est bon à mon avis qu'il soit livré au public. Libre à lui d'y croire ou de n'y point croire. Il serait difficile pour le début de ces merveilleuses et terribles aventures d'imaginer un lieu mieux approprié que les îles de la Désolation, nom qui leur fut donné en 1779 par le capitaine Cook. Eh bien, après ce que j'en ai vu pendant un séjour de quelques semaines, je puis affirmer qu'elles méritent l'appellation lamentable qui leur vient du célèbre navigateur anglais. Île de la Désolation, cela dit tout. Je sais que l'on tient, dans les nomenclatures géographiques, au nom de Kerguelen, généralement adopté pour ce groupe situé par 49 degrés 54 minutes de latitude sud et 69 degrés 6 minutes de longitude est. Ce qui le justifie, c'est que dès l'année 1772, le baron français Kerguelen fut le premier à signaler ces îles dans la partie méridionale de l'océan Indien. En effet, lors de ce voyage, le chef d'escadre avait cru découvrir un continent nouveau sur la limite des mers antarctiques. Mais au cours d'une seconde expédition, il dut reconnaître son erreur. Il n'y avait là qu'un archipel. Que l'on veuille bien s'en rapporter à moi, île de la Désolation est le seul nom qui convienne à ce groupe de 300 îles ou îlots, au milieu de ces immenses solitudes océaniques que troublent presque incessamment les grandes tempêtes australes. Cependant, le groupe est habité, et même à la date du 2 août 1839, depuis 2 mois, grâce à ma présence à Christmas Harbor, le nombre des quelques Européens et Américains qui formaient le principal noyau de la population kerguéléenne s'était accru d'une unité. Il est vrai, je n'attendais plus que l'occasion de le quitter, ayant achevé les études géologiques et minéralogiques qui m'avaient conduit pendant ce voyage. Ce port de Christmas appartient à la plus importante des îles de cet archipel, dont la superficie mesure 4 500 km², soit celle de la moitié de la Corse. Il est assez sûr, d'accès franc et facile. Les bâtiments peuvent y mouiller par 4 brasses d'eau. Après avoir doublé au nord le cap François, que le Table Mount domine de 1200 pieds, regardez à travers l'arcade de basalte, largement évidée à sa pointe. Vous apercevrez une baie étroite, couverte par des îlots contre les furieux vents de l'est et de l'ouest. Au fond se découpe Christmas Harbor. Que votre navire y donne directement en se tenant sur tribord. Lorsqu'il sera rendu à son poste de mouillage, il pourra rester sur une seule ancre, avec facilité d'évitage tant que la baie ne sera pas prise par les glaces. D'ailleurs, les Kerguéléens possèdent d'autres fjords, et par centaines. Leurs côtes sont déchiquetées, effilochées comme le bas de jupe d'une pauvresse, surtout la partie comprise entre le nord et le sud-est. Les îlets et les îlots y fourmillent. Le sol d'origine volcanique se compose de quartz, mélangé d'une pierre bleuâtre. L'été venu, il y pousse des mousses verdoyantes, des lichens grisâtres, diverses plantes phanérogames, de rudes et solides saxifrages. Un seul arbuste y végète. Une espèce de chou, d'un goût très âcre, qu'on chercherait vainement en d'autres pays. Ce sont bien là les surfaces qui conviennent, dans leur roquerie, à l'habitat des pingouins royaux ou autres, dont les bandes innombrables peuplent ces parages. Vêtus de jaune et de blanc, la tête rejetée en arrière, leurs ailes figurant les manches d'une robe, ces stupides volatiles ressemblent de loin à une file de moines processionnant le long des grèves. Ajoutons que les Kerguelen offrent de multiples refuges aux veaux marins à fourrure, aux phoques à trompe, aux éléphants de mer. La chasse ou la pêche de ces amphibies, assez fructueuses, peuvent alimenter un certain commerce qui attirait alors de nombreux navires. Ce jour-là, je me promenais sur le port lorsque mon aubergiste m'accosta et me dit « À moins que je ne me trompe, le temps commence à vous paraître long, monsieur Jorling. » C'était un gros et grand Américain, installé depuis une vingtaine d'années à Christmas Harbor et qui tenait l'unique auberge du port. Long, en effet, vous répondrai-je, maître Atkins, à la condition que vous ne serez pas blessé de ma réponse. En aucune façon, répliqua le brave homme. Vous imaginez bien que je suis fait à ces reparties-là comme les roches du Cap François aux houles du large. Et vous y résistez comme lui. Sans doute. Du jour où vous avez débarqué à Christmas Harbor, où vous êtes descendu chez Fenimore Atkins, à l'enseigne du Cormoran Vert, je me suis dit, dans une quinzaine, si ce n'est dans la huitaine, mon hôte en aura assez, et regrettera d'avoir débarqué au Kerguelen. Non, maître Atkins, et je ne regrette jamais rien de ce que j'ai fait. Bonne habitude, monsieur. D'ailleurs, à parcourir ce groupe, j'ai gagné d'y observer des choses curieuses. J'ai traversé ces vastes plaines ondulées, coupées de tourbières, tapissées de mousses dures, et j'en rapporterai de curieux échantillons minéralogiques et géologiques. J'ai pris part à vos pêches de veaux marins et de phoques. J'ai visité vos rouqueries où les pingouins et les albatros vivent en bons camarades, et cela m'a semblé digne d'observation. Vous m'avez servi, de temps en temps, du pétrel Balthazar, assaisonné de votre main, et qui est très acceptable quand on est doué d'un bel appétit. Enfin, j'ai trouvé un excellent accueil au Cormoran Vert, et je vous en suis fort reconnaissant. Mais si je sais compter, voici 2 mois que le trois-mâts chilien, Pénas, m'a déposé à Christmas Harbor, en plein hiver. Et vous avez envie, s'écria l'aubergiste, de retourner dans votre pays, qui est le mien, monsieur Jeorling, de regagner le Connecticut, de revoir Hartford, notre capitale. Sans doute, maître Atkins, car depuis 3 ans bientôt, je cours le monde. Il faudra bien s'arrêter un jour ou l'autre, prendre racine. Hé hé, quand on a pris racine, répliqua l'Américain en clignant de l'œil, on finit par pousser des branches. Très juste, maître Atkins. Toutefois, comme je n'ai plus de famille, il est très probable que je clôturerai la lignée de mes ancêtres. Ce n'est pas à 40 ans que la fantaisie me viendra de pousser des branches, ainsi que vous l'avez fait, mon cher hôtelier, car vous êtes un arbre, vous, et un bel arbre. Un chêne, et même un chêne vert, si vous le voulez bien, monsieur Jeorling. Et vous avez eu raison d'obéir aux lois de la nature. Or, si la nature nous a donné des jambes pour marcher, elle nous a aussi donné de quoi nous asseoir, repartit en riant d'un gros rire Fenimore Atkins. C'est pourquoi je suis confortablement assis à Christmas Harbor. Ma commère Betsey m'a gratifié d'une dizaine d'enfants qui me gratifieront de petits-enfants à leur tour, lesquels me grimperont aux mollets comme de jeunes chats. Vous ne retournerez jamais au pays natal? Qui ferais-je, monsieur Jeorling, et qui aurais-je fait? De la misère. Au contraire, ici, dans ces îles de la désolation, où je n'ai jamais eu l'occasion de me désoler, l'aisance est venue pour moi et les miens. Sans doute, maître Atkins, et je vous en félicite, puisque vous êtes heureux. Toutefois, il n'est pas impossible que le désir vous attrape un jour. De me déplanter, monsieur Jeorling? Allons donc, un chêne, vous ai-je dit, et essayez donc de déplanter un chêne, lorsqu'il s'est enraciné jusqu'à mi-tronc dans la silice des Kerguelen. Il faisait plaisir à entendre, ce digne Américain, si complètement acclimaté sur cet archipel, si vigoureusement trempé dans les rudes intempéries de son climat. Il vivait là, avec sa famille, comme les pingouins dans leur rouquerie. La mère, une vaillante matrone, les fils, tous solides, en florissante santé, ignorant les angines ou les dilatations de l'estomac. Les affaires marchaient. Le Cormoran Vert, convenablement achalandé, avait la pratique de tous les navires, baleiniers et autres, qui relâchaient au Kerguelen. Il les fournissait de suif, de graisse, de goudron, de brais, d'épices, de sucre, de thé, de conserve, de whisky, de gin, de brandevin. On eût vainement cherché une seconde auberge à Christmas Harbor. Quant aux fils de Fenimore Atkins, ils étaient charpentiers, voiliers, pêcheurs, et chassaient les amphibies au fond de toutes les passes durant la saison chaude. C'étaient de braves gens, qui avaient 100 ans d'ambage, obéi à leur destinée. Enfin, maître Atkins, pour conclure, déclarai-je, je suis enchanté d'être venu au Kerguelen, et j'en emporterai un bon souvenir. Pourtant, je ne serais pas fâchée de reprendre la mer. Allons, monsieur Jorling, un peu de patience, me dit ce philosophe. Il ne faut jamais désirer ni hâter l'heure d'une séparation. N'oubliez pas d'ailleurs que les beaux jours ne tarderont pas à revenir. Dans 5 ou 6 semaines. En attendant, me suis-je écrié, les monts et les plaines, les roches et les grèves sont couverts d'une épaisse couche de neige, et le soleil n'a pas la force de dissoudre les brumes de l'horizon. Par exemple, monsieur Jorling, on voit déjà percer le gazon sauvage sous la chemise blanche. Regardez bien. À la loupe, alors. Entre nous, Atkins, oseriez-vous prétendre que les glaces n'embâclent pas encore vos baies en ce mois d'août, qui est le février de notre hémisphère nord? J'en conviens, monsieur Jorling. Mais patience, je vous le répète. L'hiver a été doux cette année. Les bâtiments vont se montrer au large, dans l'est ou dans l'ouest, car la saison de pêche est prochaine. Le ciel vous entende, maître Atkins, et puisse-t-il guider à bon port le navire qui ne saurait tarder, la goélette Albrenn. Capitaine Lengy, répliqua l'aubergiste, c'est un fier marin, quoique anglais. Il y a des braves gens partout, et qui s'approvisionnent au cormoran vert. Vous pensez que l'Albrenn sera signalé avant 8 jours par le travers du cap François, monsieur Jorling. Ou bien alors c'est qu'il n'y aurait plus de capitaine Lengy. Et s'il n'y avait plus de capitaine Lengy, c'est que l'Albrenn aurait sombré sous voile entre les Kerguelen et le cap de Bonne-Espérance. Là-dessus, après un geste superbe, indiquant que pareille éventualité était hors de toute vraisemblance, me quitta maître Fenimore Atkins. Du reste, j'espérais que les prévisions de mon aubergiste ne tarderaient pas à se réaliser, car le temps me durait. À l'en croire, se révélaient déjà les symptômes de la belle saison, belle pour ces parages, s'entend. Que le gisement de l'île principale soit à peu près le même en latitude que celui de Paris en Europe et de Québec au Canada, soit. Mais c'est de l'hémisphère méridional qu'il s'agit, et on ne l'ignore pas, grâce à l'orbe elliptique que décrit la Terre, et dont le soleil occupe un des foyers, cet hémisphère est plus froid en hiver que l'hémisphère septentrional et aussi plus chaud que lui en été. Ce qui est certain, c'est que la période hivernale est terrible au Kerguelen, à cause des tempêtes, et que la mer s'y prend pendant plusieurs mois. Bien que la température n'y soit pas d'une rigueur extraordinaire, étant en moyenne de 2 degrés centigrades pour l'hiver et de 7 pour l'été, comme aux Falklands ou au Cap Horn. Il va sans dire que durant cette période, Christmas Harbour et les autres ports n'abritent plus un seul bâtiment. À l'époque dont je parle, les steamers étaient rares encore. Quant aux voiliers, soucieux de ne point se laisser bloquer par les glaces, ils allaient chercher les ports de l'Amérique du Sud, à la côte occidentale du Chili, ou ceux de l'Afrique, plus généralement Cape Town, du Cap de Bonne-Espérance. Quelques chaloupes, les unes prises dans les eaux solidifiées, les autres gités sur les grèves et engivrés jusqu'à la pomme de leurs mâts, c'était tout ce qu'offrait à mes regards la surface de Christmas Harbour. Cependant, si les différences de température ne sont pas considérables au Kerguelen, le climat y est humide et froid. Très fréquemment, surtout dans la partie occidentale, le groupe reçoit l'assaut des bourrasques du nord ou de l'ouest, mêlés de grêle et de pluie. Vers l'est, le ciel est plus clair, bien que la lumière y soit à demi voilée. Et de ce côté, la limite des neiges sur les croupes montagneuses se tient à 50 toises au-dessus de la mer. Donc, après les 2 mois que je venais de passer dans l'archipel des Kerguelen, je n'attendais plus que l'occasion d'en repartir à bord de la goélette Albrenn, dont mon enthousiaste aubergiste ne cessait de me vanter les qualités, au double point de vue sociable et maritime. Vous ne sauriez trouver mieux, me répétait-il matin et soir. De tous les capitaines au long cours de la marine anglaise, pas un n'est comparable à mon ami Lengy, ni pour l'audace, ni pour l'acquis du métier. S'il se montrait plus causeur, plus communicatif, il serait parfait. Aussi avais-je résolu de m'en tenir aux recommandations de maître Atkins. Mon passage serait retenu dès que la goélette aurait mouillé à Christmas Harbour. Après une relâche de 6 à 7 jours, elle reprendrait la mer, le cap sur Tristan d'Acunha, où elle portait un chargement de minerais d'étain et de cuivre. Mon projet était de rester quelques semaines de la belle saison dans cette dernière île. De là, je comptais repartir pour le Connecticut. Cependant, je n'oubliais pas de réserver la part qui revient au hasard dans les propositions humaines, car il est sage, comme l'a dit Edgar Poe, de toujours calculer avec l'imprévu, l'inattendu, l'inconcevable, que les faits collatéraux, contingents, fortuits, accidentels, méritent d'obtenir une très large part, et que le hasard doit incessamment être la matière d'un calcul rigoureux. Et si je cite notre grand auteur américain, c'est que, quoique je sois un esprit très pratique, d'un caractère très sérieux, d'une nature peu imaginative, je n'en admire pas moins ce génial poète des étrangetés humaines. Du reste, pour en revenir à Lolbren, ou plutôt aux occasions qui me seraient offertes de m'embarquer à Christmas Harbor, je n'avais à craindre aucune déconvenue. À cette époque, les Kerguelen étaient annuellement visités par quantité de navires, au moins 500. La pêche des cétacés donnait de fructueux résultats, et l'on jugera par ce fait qu'un éléphant de mer peut fournir une tonne d'huile, c'est-à-dire un rendement égal à celui de 1 000 pingouins. Il est vrai, depuis ces dernières années, les bâtiments ne sont plus qu'une douzaine à rallier cet archipel, tant la destruction abusive des cétacés en a réduit le chiffre. Donc, aucune inquiétude à concevoir sur les facilités qui me seraient offertes de quitter Christmas Harbor, quand bien même, l'Halbren manquant à son rendez-vous, le capitaine Len Guy ne viendrait pas serrer la main de son compère Atkins. Chaque jour, je me promenais aux environs du port. Le soleil commençait à prendre de la force. Les roches, terrasses ou colonnades volcaniques se déshabillaient peu à peu de leurs blanches toilettes d'hiver. Sur les grèves, à l'aplomb des falaises basaltiques, naissait une mousse de couleur vineuse, et au large, serpentaient des rubans de ces longues algues de 50 à 60 yards. En plaine, vers le fond de la baie, quelques graminées levaient leurs pointes timides. Entre autres, le phanérogame Liella, qui est d'origine andine. Puis ceux que produit la flore de la terre fuégienne. Et aussi, l'unique arbuste de ce sol dont j'ai parlé, ce chou gigantesque, si précieux par ses vertus antiscorbutiques. En ce qui concerne les mammifères terrestres, car les mammifères marins pullulent dans ces parages, je n'en avais pas rencontré un seul, non plus que de batraciens ou de reptiles. Quelques insectes uniquement, papillons ou autres, et encore n'ont-ils point d'ailes. Pour cette raison qu'avant qu'ils puissent s'en servir, les courants atmosphériques les emporteraient à la surface des lames roulantes de ces mers. Une ou deux fois, j'avais embarqué sur une de ces chaloupes solides sur lesquelles les pêcheurs affrontent les coups de vent qui battent comme des catapultes les roches des Kerguelen. Avec ces bateaux-là, on pourrait tenter la traversée de Cape Town et atteindre ce port si on y mettait le temps. Que l'on se rassure, mon intention n'était point de quitter Christmas Harbor dans ces conditions. Non, j'espérais la goélette Holbrane, et la goélette Holbrane ne pouvait tarder. Au cours de ces promenades d'une baie à l'autre, j'avais curieusement saisi les divers aspects de cette côte tourmentée, de cette ossature bizarre, prodigieuse, toute de formations ignées, qui trouait le suaire blanc de l'hiver et laissait passer les membres bleuâtres de son squelette. Quelle impatience me prenait parfois, malgré les sages conseils de mon aubergiste, si heureux de son existence dans sa maison de Christmas Harbor. C'est qu'ils sont rares en ce monde, ceux que la pratique de la vie a rendus philosophes. D'ailleurs, chez Fenimore Atkins, le système musculaire l'emportait sur le système nerveux. Peut-être aussi possédait-il moins d'intelligence que d'instinct. Ces gens-là sont mieux armés contre les à-coups de la vie, et il est possible, en somme, que leur chance de rencontrer le bonheur ici-bas soit plus sérieuse. Et l'Halbren? Lui redisais-je chaque matin. L'Halbren, monsieur Jering, me répondait-il d'un ton affirmatif. Bien sûr, elle arrivera aujourd'hui. Et si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Il y aura certainement un jour, n'est-ce pas, qui sera la veille de celui où le pavillon du capitaine Len Guy se déploiera à l'ouvert de Christmas Harbor. Assurément, afin d'accroître le champ de vue, je n'aurais eu qu'à faire l'ascension de Table Mount. Pour une altitude de 1 200 pieds, on obtient un rayon de 30 à 35 000, et même à travers la brume. Peut-être la goélette serait-elle aperçue 24 heures plus tôt. Mais gravir cette montagne, dont la neige boursouflait encore les flancs jusqu'à sa cime, un fou seul aurait pu y songer. En courant les grèves, il m'arrivait de mettre en fuite nombre d'amphibies qui plongeaient sous les eaux nouvelles. Les pingouins, impassibles et lourds, ne décampaient point à mon approche. N'était l'air stupide qui les caractérise, on serait tenté de leur adresser la parole, à la condition de parler leur langue, criarde et assourdissante. Quant aux pétrels noirs, aux puffins noirs et blancs, aux grèbes, aux sternes, aux macreuses, ils fuyaient à tire-d'aile. Un jour, il me fut donné d'assister au départ d'un albatros, que les pingouins saluèrent de leur meilleure croasserie, comme un ami qui, sans doute, les abandonnait pour toujours. Ces puissants volateurs peuvent fournir des étapes de 200 lieues, sans prendre un moment de repos, et avec une telle rapidité qu'ils franchissent de longs espaces en quelques heures. Cet albatros, immobile sur une haute roche, à l'extrémité de la baie de Christmas Harbor, regardait la mer dont le ressac brisait avec violence sur les écueils. Soudain, l'oiseau s'éleva d'une large envergure, les pattes repliées, la tête longuement allongée comme une guibre de navire, jetant son cri aigu, et quelques instants après, réduit à un point noir au milieu des hautes zones, il disparaissait derrière le rideau brumeux du sud.